Je sais qu'il y a de la concurrence footballistique ce soir, hein, et que, bon, j'espère que personne n'est resté à la maison que pour regarder le match, ben, sinon, il y en a qui m'oppressent déjà, qui me demandent de faire attention, de leur donner la chance de voir une deuxième mi-temps. On va consulter Dieu pour savoir ce qu'il pense. Voilà, donc on va lire dans 2 Samuel. Vous avez lu Josué chapitre 9, mais nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 5, versets 17 à 25. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut traduire, peut-être Charity ou Jean-Pierre, ou pour les amis, les frères et sœurs devant, qui, ce serait bien même qu'ils puissent. Tu veux faire? Ouais. Voilà. Que peut-être ici, comme ça, tu peux mieux aller vers le milieu, je ne sais pas. Ou derrière, comme tu veux, c'est ce qui est le mieux, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Je vous cherche des traducteurs. Hein. Voilà, un petit peu. 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17, à partir du verset 17. Donc 2 Samuel 5, verset 17. Donc écoutons la parole de Dieu. Les Philistins apprirent qu'on avait roint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit, puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez un lien entre ce texte et puis celui de Josué chapitre 9. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave, on va peut-être le voir tout à l'heure. Les chapitres qui précèdent, si vous avez lu 2 Samuel, décrivent une suite d'événements, on peut dire plutôt malheureux, hein, de guerre et de règlement de comptes. Il y a des assassinats, l'assassinat d'Ishbosheth, l'assassinat d'Abner, il y a ensuite, une mort accidentelle aussi, hein, celle de Azaël, je crois, hein, donc, et il y a depuis une guerre entre les personnes qui appartiennent à David. Il y avait deux camps, hein, David, les gens de David, et puis aussi les gens de Saül. Et les deux camps plus ou moins s'affrontaient. Alors David, lui, il est maintenant roi, hein, quand on arrive au chapitre 5, il est couronné roi. Si vous regardez au verset 3, il dit que les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils roignirent David pour roi sur Israël. Et donc David était, vous voulez, un peu roi de Juda, si, hein, puis ces hommes avaient fait nommer, je crois qu'ils avaient fait nommer Ish-Boshet, roi d'Israël. Et là, David, maintenant, il est roi de tout Israël, on pourrait dire. Et les Philistins, ils l'apprennent. Verset 17 nous dit que les Philistins apprirent qu'on avait roint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. Alors, je ne crois pas qu'ils disent ici qu'il les montait à sa recherche pour le féliciter, comme par exemple le président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, par exemple, appelle Monsieur Macron pour le féliciter parce qu'il a été élu président de la République. Ici, quand il dit qu'il le cherche, la suite nous montre que ce n'était pas pour faire des embrassades, mais plutôt pour lui faire la guerre, hein, pour s'opposer à lui. Donc leur intention n'est vraiment pas de le féliciter pour, on pourrait dire, pour son onction, pour le fait qu'il soit roi, mais plutôt de s'opposer à lui. Alors la Bible dit ici qu'il se déploie dans la vallée des Réphaïm. Donc là, le terme vallée des Réphaïm, c'est vallée des géants, hein, ici. Et donc c'est un déploiement militaire qui ne laisse planer, je crois, aucun doute sur les intentions des Philistins à l'égard de David et de son peuple. Alors, que va faire David? Donc, c'est une situation, on pourrait dire, un peu inédite. Que va faire? Voilà, il est roi, tout fraîchement. Que va-t-il faire dans cette situation? Et cette question, je crois, se pose à tout enfant de Dieu qui se trouve dans une situation et puis doit prendre une décision. Là, David doit faire quelque chose. Est-ce que je vais combattre? Est-ce que je vais pas combattre? Qu'est-ce que j'attaque? Qu'est-ce que j'attaque pas? Est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je fais? Je mets mon peuple en protection. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est une question qui est devant laquelle nous pouvons nous trouver, peut-être pas avec des gens qui veulent nous faire la guerre, mais nous avons parfois des situations qui arrivent et puis il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que l'on doit faire et comment est-ce qu'on prend les décisions? Et ce texte nous enseigne, je crois, de précieuses leçons sur la manière d'agir dans les différentes circonstances de la vie et dans les décisions qui se présentent devant nous. Et un grand enseignement de ce passage, je ne dis pas que c'est le seul, ni c'est exprès pour cela qu'il est là, mais un enseignement de ce passage, c'est la dépendance, comment le croyant doit être dépendant de Dieu, comment être dépendant vis-à-vis de Dieu. La dépendance, j'ai dit, dans laquelle le croyant doit se maintenir. On voit ici un David qui fait face à cette situation qui est liée bien sûr à sa position de roi. Et dans la manière pour lui de faire face à cela, c'est de dépendre complètement sur Dieu, hein, de dépendre complètement de Dieu. Et comment cette dépendance se manifeste-t-elle? Alors si vous regardez, il est dit, verset 17, il est dit, les Philistins apprirent que David avait été roi pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche, donc tout le peuple, hein. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent, et puis ils se déployèrent dans la vallée. Donc ils se mettent en ordre de bataille, probablement. Et que fait David? David ne dit pas, ah, il faut que je consulte ici tous les fins stratèges de mon gouvernement pour savoir comment on va faire pour contrer ces gens. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est quoi? Consulte l'Éternel. Et il consulte l'Éternel en posant, voyez ici, des questions à Dieu. Le premier réflexe de David, c'est de consulter Dieu. L'homme naturel se croit indépendant, n'est-ce pas, de quiconque. Et on cherche à montrer qu'on est indépendant. Même on nous pousse à être indépendant. Pensez par vous-même. Prenez vous-même vos propres décision. Mais ici, le premier réflexe de David n'est pas de chercher en lui-même ce qu'il va faire, ni de chercher auprès de ses stratèges, de ses militaires, de Joab ou des autres ce qu'il doit faire, mais de consulter Dieu. C'était un homme, rappelez-vous, David, c'était un homme de guerre, hein, un homme qui est rompu au combat et à l'art de la guerre. Il est maintenant roi sur tout Israël. Et il fait face à ce déploiement et son premier recours, c'est de consulter Dieu. Et donc, je dirais que dépendre, premièrement, dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu en premier recours. toujours dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu en premier recours. Si nous voulons être honnêtes, nous avons peut-être déjà vécu beaucoup de situations, ou même pris des décisions, sans avoir consulté Dieu. Ou peut-être, étant dans la difficulté, on se met à ce moment-là à consulter Dieu. Mais ici, on voit quelqu'un qui est un militaire consulter Dieu sur la stratégie militaire qu'il doit adopter. Et l'enfant de Dieu doit agir de la même manière. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, un chrétien, doit consulter Dieu sur toutes les décisions qu'il doit prendre. Il pose des questions à Dieu, il l'interroge sur ce qu'il doit entreprendre comme action. Et on trouve, je crois, la même attitude. C'est une caractéristique, on pourrait dire, un caractère chez David, parce qu'on trouve la même chose au chapitre 2. Regardez chapitre 2 de 2 Samuel et au verset 1. David, c'est peu de temps après la mort de Saül. David sait qu'il succède à Saül, ici. Saül est mort. Quel est le roi naturel qui doit prendre la place de Saül? C'est David. Mais ici, regardez ce qu'il fait, David, chapitre 2, verset 1. Il dit, après cela, donc le chapitre avant raconte un peu des choses, il a l'oraison que David a prononcée sur Saül, donc chapitre 2, verset 1. Il dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une ville de Juda ?» Et l'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je ? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Au début du verset 2, « Et David y monta. » Voilà. Donc c'est quelque chose qui décrit le caractère de David. Il sait qu'il a la promesse de Dieu pour lui, qu'il est roi, hein, qu'il est celui qui est choisi à la place de Saül. Et quand Saül meurt, il consulte quand même l'Éternel pour savoir est-ce que c'est précisément maintenant qu'il doit faire quelque chose. Et si oui, maintenant, où il doit faire la chose. Vous voyez, c'est ces questions qui montrent qu'il cherche constamment à dépendre de Dieu dans tout ce qu'il fait, en tout cas dans cette situation présente devant lui. Donc ici, il consulte Dieu en premier recours. Il n'est pas parti et puis demande à Dieu, est-ce que c'est bien là qu'il fallait aller? Il demande à Dieu et il part. Okay. Donc dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu en premier recours. Deuxième chose que l'on peut voir ici, c'est que dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu quelle que soit notre expérience de la situation. Dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu, quelle que soit notre expérience de la situation. Chapitre 5, verset 18, on lit, « Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. » Verset 22, on lit, les Philistins montèrent de nouveau, donc ça c'est bien après, je ne sais pas combien de temps après, des mois après peut-être. Hein. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est quoi? On a deux fois la même chose. On a deux fois la même chose. On peut noter ici qu'il y a deux situations et les deux sont parfaitement similaires. C'est qui c'est qui monte? C'est toujours les Philistins, donc c'est le même peuple. Ils vont où? Dans le même lieu. Et de là, ils font quoi? Ils font la même chose, la même manière. Ils vont dans la vallée des Réphaïm et ils se déploient. Donc on pourrait dire ici que la tentation naturelle serait de dire quoi? Ce serait de dire, ah, ça, je connais. J'ai déjà vu, c'est une situation que j'ai déjà vécue et je sais ce qu'il faut faire. La dernière fois, il fallait faire quoi? Il fallait monter et combattre. Eh bien, allons-y, on y va. C'est la même situation, à même problème, même solution. Et le cœur naturel répond comme cela. Mais celui qui dépend de Dieu n'agit pas avec cette attitude. Qu'est-ce qu'il fait? Même dans une situation qui est déjà connue dans laquelle il a déjà eu une expérience, où il a déjà vu comment Dieu a répondu, il consulte quand même Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 22, 23. David fait quoi? Il consulta l'Éternel. Donc verset 18, verset 19, David consulte l'Éternel après la première expérience. Verset 23, David consulte encore l'Éternel dans la seconde expérience qui est similaire à la première. Exactement la même chose. Donc et si vous lisez dans le parallèle de ce texte dans 1 Chronique chapitre 14 verset 13, on ne va pas chercher, il est dit que les Philistins montent de nouveau dans la vallée des Réphaïm, et il est dit que David consulta encore Dieu. Donc les Philistins montrent et David, lui aussi, dans la même situation, consulte encore Dieu. Il ne se base donc pas sur, on pourrait dire, son expérience passée pour se dispenser de consulter Dieu. Il consulte encore et encore et encore, même si il y a à chaque fois la situation qui se répète. Un ennemi que nous avons, ce qui constitue pour nous parfois un ennemi de notre dépendance à Dieu, c'est notre expérience. Parfois, on dit « j'ai l'expérience ». L'expérience est parfois un ennemi de la dépendance à Dieu. Je redis cela, l'expérience est parfois un ennemi de la dépendance à Dieu. Nous sommes souvent tentés de nous appuyer sur ce que nous avons déjà vécu et de faire valoir notre expérience comme fondement de nos prises de décision. Mais David nous montre que non, même en ayant vécu des expériences similaires, sa prise de décision repose sur une dépendance de Dieu. Il consulte Dieu. Rappelez-vous de Pierre, lorsque Jésus lui a dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher ». Qu'est-ce que Simon a répondu? Vous vous rappelez, il dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre ». Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Okay. C'est une manière de dire, quelque part, on a de l'expérience, Seigneur. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. On était là où il fallait. C'est pas là sur le rivage, c'est pas là à côté, bon, qu'on va trouver. Mais bon, et puis il dit, mais bon, puisque tu le dis, on va le faire. Mais son intention profonde n'est pas de, initialement de croire en ce que Jésus dit, mais plutôt de présenter son expérience. Voilà ce que nous avons fait. Nous sommes des marins pêcheurs, on a travaillé la nuit comme il faut et on n'a rien pris. D'accord? Donc, vous voyez, c'est comme ça que nous agissons souvent. Nous appuyons sur nos expériences pour décider d'une chose ou d'une autre, de la faisabilité d'une chose ou d'une autre, ou d'une décision que nous devons prendre. La similarité des circonstances ou des décisions à prendre ne doivent pas nous faire oublier Dieu, mais doivent nous pousser davantage à nous attacher à lui. Et c'est ce que Dieu recherche. Donc, premièrement, on a dit dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu en premier recours. Deuxièmement, dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu quelle que soit notre expérience de la situation. Et ne pas dire « je connais, je n'ai pas besoin de Dieu ». C'est une petite affaire, je peux la faire moi-même, je n'ai pas besoin de prier, parce que je sais déjà comment on fait. Quelle que soit l'expérience, nous avons besoin de consulter Dieu. Et puis troisièmement, on peut voir ici aussi que dépendre de Dieu, c'est obéir à Dieu. Il ne s'agit pas pour David ici de savoir ce que Dieu veut qu'il fasse dans cette situation, simplement. C'est-à-dire, c'est pas comme s'il dit à Dieu, est-ce que je dois monter? Oui. Est-ce que tu le livreras entre mes mains? Oui. Et après, il fait rien avec. Il n'obéit pas. Ça n'est pas la dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, ce n'est pas simplement poser des questions à Dieu pour savoir ce qu'il faut faire, quel chemin on doit entreprendre. Dépendre, c'est à la fois consulter Dieu, mais aussi, quand on a la réponse de Dieu, c'est obéir à Dieu. Ce n'est pas simplement savoir quelque chose, mais c'est obéir à ce que l'on sait être le commandement de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 20 et au verset 25. Regardez le verset 20, il dit « David vint à Baal-Perazim, où il battit les Philistins ». Donc, il est monté, il a combattu les Philistins. Et au verset 25, Il est dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est-à-dire, Dieu lui dit, tu monteras par derrière, etc., tu vas attendre, et quand tu vas entendre le bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sauras que l'Éternel combat. Eh bien, il dit, David a fait exactement ce que l'Éternel lui a ordonné. Donc, consulter Dieu, enfin, dépendre de Dieu, c'est le consulter, d'accord, en premier recours, c'est le consulter, quel que soit l'expérience que nous avons de la situation, mais c'est aussi obéir à Dieu. Parfois, on va consulter un médecin parce qu'on est malade, n'est-ce pas? On appelle ça une consultation. Okay. Le médecin, il nous fait quoi? Il nous fait une ordonnance. D'accord? Mais cette consultation qu'on a faite ici, hein, elle ne nous sera bénéfique que si on obéit à quoi? À la prescription ou à l'ordonnance, hein, si vous voulez. Hein. Donc, ce qu'il dit, tel médicament 3 fois par jour, si on le prend, ça nous sera bénéfique. Mais je ne peux pas dire, ah, je me sens bien parce que j'ai consulté le médecin, il m'a donné une ordonnance. Ça ne guérit pas d'avoir simplement une ordonnance. Ce n'est pas bénéfique de consulter simplement le médecin. C'est le consulter et obéir à l'ordonnance, si j'ose dire. Et spirituellement, c'est la même chose. Ça n'est pas bénéfique seulement de consulter Dieu, de chercher dans sa parole ou de chercher auprès des autres comment nous devons agir dans telle ou telle situation ou quelle décision nous devons prendre. Une fois que l'on sait ce qu'est la volonté de Dieu, il faut s'y soumettre et y obéir. Et Jacques dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Et donc je crois ici d'ailleurs que la réponse différente que Dieu donne, parce que vous voyez que Dieu donne une réponse différente dans la même situation, hein. Un coup il dit monte, l'autre coup il dit tu ne monteras pas, d'accord? Et c'était la même situation. C'est pour pousser David à l'obéissance aussi, quelque part. Hein. Quand les réponses sont différentes, ça nous oblige à répondre comme ça dans cette situation et à ne pas faire avec notre expérience, mais encore à consulter Dieu et à obéir à Dieu, à nous soumettre à Dieu dans, si vous voulez, la nouvelle ou la solution différente qu'il donne à la situation. Donc dépendre de Dieu, c'est aussi obéir à Dieu. Puis quatrièmement, on pourrait dire que dépendre de Dieu, c'est reconnaître que c'est lui qui, c'est lui qui œuvre ici. Regardez ce que David dit. Après la première bataille, David reconnaît que c'est Dieu qui a remporté la victoire. Verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. Et puis au verset 24, il dit, c'est Dieu qui parle plutôt ici et qui dit, c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Quand on dépend vraiment de Dieu, eh bien, on reconnaît que c'est Dieu qui dirige et que c'est Dieu qui gouverne. Dépendre de Dieu, c'est être dans cette connaissance que c'est lui qui œuvre et que c'est lui qui combat, d'accord? Et c'est lui qui marche devant, il ne marche pas derrière, d'accord? C'est pas moi j'y vais et puis Dieu, je l'emmène là où je vais. Non, c'est Dieu dit c'est moi qui marche devant toi. C'est-à-dire, c'est lui qui mène la bataille, c'est lui qui mène la guerre, c'est lui qui mène le combat. Et le serviteur dépendant, il suit le maître où il va. C'est pas Pierre qui a dit à Jésus, toi, suis-moi. C'est Jésus qui a dit à Pierre, toi, suis-moi. Et Jésus nous dit la même chose, toi, suis-moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui dirige, c'est lui qui mène, et c'est où il va, c'est là où nous devons aller. Où il nous mène à travers sa parole, c'est là où nous devons aussi aller. Et c'est pour cela que Dieu dit ici à David, c'est moi qui marche, l'Éternel, il dit ici, qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Alors bien sûr, David et son peuple, ils ont combattu, mais ils ne voient pas oublier que c'est à travers la victoire qu'ils ont remportée, c'est Dieu lui-même qui a combattu pour le peuple. Donc, je résume, chers frères et sœurs. Premièrement, dépendre de Dieu, c'est quoi? C'est consulter Dieu en premier recours. Ne pas l'oublier, toujours consulter Dieu en premier. Dépendre de Dieu, c'est consulter Dieu, quelle que soit Voilà, pas quelque soit, oui, quelle que soit l'expérience que l'on a de la situation. C'est-à-dire, on peut dire, je connais ça par cœur, je sais ce qu'il faut faire. Là, on est en danger. Même si je sais comment j'ai fait la fois d'avant, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Donc, il faut que je dépende de Dieu, même si je connais déjà le même type de situation. Troisièmement, dépendre de Dieu, c'est obéir à Dieu. Consulter pour connaître, mais une fois que l'on connaît, on doit se soumettre à la volonté de Dieu et y obéir. Et puis, connaître Dieu, c'est reconnaître que c'est lui qui œuvre et que c'est lui qui marche. Et je crois que ces attitudes-là, on le trouve dans la personne de Jésus-Christ. David est un type de Christ, et dans cette attitude, on le trouve dans la personne de Christ, cette dépendance parfaite que Jésus, fils de Dieu, avait à l'égard de Dieu lui-même. Il a dit en entrant dans le monde, « Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Et étant sur la terre, il a dit, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Quand il prie dans Jean chapitre 17, il dit, j'ai achevé toute l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc il était dans une parfaite dépendance de son Père. Et dans la Bible, parle même de son obéissance, n'est-ce pas? Et donc nous avons en Jésus-Christ l'image parfaite de la dépendance. Quelques mots de conclusion, chers frères et sœurs, pour tout ça. Je voudrais souligner quelques leçons pour nous à travers ce passage. C'est que nous devons toujours consulter Dieu parce que les attaques de l'ennemi peuvent renfermer des pièges. Nous devons toujours consulter Dieu parce que les attaques de l'ennemi peuvent renfermer des pièges. Nous ne devons pas oublier que l'ennemi, il est rusé, nous dit la Bible. Et c'est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il sait faire preuve de subtilité. Il sait, à travers une même situation, d'accord, viser autre chose. D'accord. Alors, peut-être que nous croyons, l'année dernière, c'était comme ça que la situation était venue. Je me rappelle, c'était... Et puis, c'est autre chose qui est visée en nous à travers la même situation. Donc, nous devons être extrêmement vigilants pour consulter Dieu et savoir ce que nous devons faire dans cette situation. Vous avez lu Josué chapitre 9. Vous vous rappelez de cette ruse? Il est dit que les Gabaonites ils avaient utilisé la ruse à l'égard du peuple d'Israël. Ils ont fait croire qu'ils venaient de très loin. Et qu'a fait Josué? Il a écouté ce que ces gens ont dit, il a cru ce que ces gens ont dit, et le texte termine en disant quoi? Ils n'ont pas, vous vous rappelez, Josué chapitre 9, verset, je vous le lis, chapitre 9, verset 14, il est dit, les hommes d'Israël prirent leurs provisions, ils ont cru à ce qu'ils ont dit, et ils ne consultèrent point l'Éternel. D'accord? Ils ont pris leurs provisions et ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont eu confiance en ce qu'ils ont vu, en ce qu'ils ont compris, et ils n'ont pas pris la peine de consulter Dieu. C'était évident que ces personnes venaient de loin, n'est-ce pas? C'était évident que leur pain tout sec était chaud quand ils sont partis, que leurs vêtements déchirés montrent qu'ils ont usé leurs vêtements pendant la marche. Tout ça paraissait évident. Alors, pourquoi ne pas leur faire confiance? Ils ont fait confiance. Et après, eh bien, on voit, on n'a pas lu la suite de l'histoire, mais on voit que c'était un mensonge. Et le texte souligne clairement qu'ils ont accepté tout cela sans consulter Dieu. Et c'est la leçon que je pense dans Josué, que le Saint-Esprit veut nous montrer. Attention, attention, ne faisons pas confiance à nos propres sens, à nos propres perceptions des choses. Le diable est plus rusé que nous ne le croyons. Et il peut viser autre chose que ce que nous croyons qu'il est en train de viser ici. Okay? Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je dois souligner que nous devons toujours consulter Dieu parce que la réponse que Dieu donne n'est pas toujours la même, même si les circonstances sont similaires. Ça, c'est une leçon que nous devons retenir. Dieu n'est pas un robot. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a une situation comme cela, il faut répondre comme ça. Ce n'est pas voilà ce que vous devez faire dans cette situation, il faut répondre comme ça. Ce n'est pas comme cela que Dieu agit. Dieu est infiniment plus complexe que cela. D'accord. Et ce que Dieu cherche, c'est pas simplement de nous donner une réponse toute faite à quelque chose. Donc attention, nous devons toujours consulter Dieu, parce que la réponse qu'il donne n'est pas toujours la même, même dans les circonstances similaires. Un coup il dit monte, le coup d'après il dit tu ne monteras pas. Et donc il ne nous appartient pas de décider que puisque la situation est la même, eh bien la réponse de Dieu sera celle qu'il avait donnée auparavant. Donc attention à ne pas nous tromper dans ce sens. Donc pour ne pas nous tromper dans ce sens, il faut toujours consulter Dieu, quelle que soit la situation et quelle que soit notre expérience de la situation. Puis troisièmement, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas simplement de nous dire ce qu'il faut faire ou de nous dire quelle décision il faut prendre dans telle ou telle situation. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est nous apprendre à dépendre de lui et à obéir. Le but de Dieu n'est pas de nous dire « quand tu as ça, tu fais ça ». Et « quand tu as ça, tu fais ça ». Ce n'est pas un catalogue. Vous savez, quand vous achetez parfois un matériel, et puis il y a écrit « dépannage ». Cas de panne, vous avez les cas de panne, et puis après il y a, bon, si le moteur ne démarre pas, et après il y a solution, voilà ce qu'il faut faire. Vérifier l'huile, vérifier ceci. C'est pas comme cela que Dieu agit. C'est pas, voilà le problème, la solution elle est là. Non. Bien sûr, Dieu répond aux questions qu'on lui pose, il nous ouvre les yeux, il nous éclaire dans les situations, comment nous devons nous comporter, comment nous devons agir, mais ce que Dieu cherche par-dessus tout, c'est une relation dans laquelle nous dépendons de lui et nous sommes obéissants. Et ça, David le montre ici. Et on le montre comment ? On le montre, eh bien, lorsque systématiquement on vient à Dieu pour le consulter, pour obéir à sa parole. Parfois, Dieu a dit, vous vous rappelez, dans certains combats, qu'il fallait dévouer le peuple par interdit. Et puis parfois, il disait, il fallait dévouer une certaine partie du butin par interdit, et l'autre partie, il fallait la garder. Donc, vous voyez, ce n'était pas toujours la même réponse. Et à chaque fois, ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance dans la situation. La dépendance à lui dans la situation. Et je termine en disant que Ésaïe, en Ésaïe, par exemple, Dieu prononce un certain nombre de malheurs sur ceux qui prennent des décisions sans le consulter. Si vous lisez Ésaïe, chapitre 30, verset 1, regardez Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30, verset 1. Il est dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font alliance sans ma volonté pour accumuler péché sur péché et qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. » Voyez, Dieu dit, c'est ceux qui agissent comme cela, ils s'attirent le malheur. Et un autre passage dans Ésaïe 29, verset, je vais vous lire, 29, 15, dit ceci. Il dit, malheur à ceux qui cachent, je lis dans la traduction d'Arbi, il dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit, qui nous connaît. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir ?» Alors ça peut être aussi pour les enfants, c'est-à-dire de Dieu, qui prennent une décision sans consulter Dieu, c'est chercher à cacher ses intentions à Dieu. C'est comme ça que Ésaïe l'exprime ici. Donc, il dit que ceux qui agissent de la sorte, qui agissent sans consulter Dieu, s'attirent le malheur. Alors, comment est-ce que l'on consulte Dieu ? Vous direz, à travers sa parole. Oui, à travers sa parole, bien sûr, on a l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide. Mais aussi, Dieu permet parfois à certaines personnes qui ont peut-être, auprès desquelles nous a placés, qui ont plus d'expérience que nous, de nous aider aussi dans certaines décisions. Dieu parle à travers sa parole, et ces personnes peuvent nous montrer à travers la parole de Dieu quelle décision, comment il faut la prendre dans telle ou telle situation. Alors, nous n'avons pas à avoir peur de parler des choix ou des difficultés de choix qui sont devant nous. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, qui a pris une décision. J'ai dit, mais pourquoi tu as pris cette décision ? Il me dit, mais je voulais en parler à personne parce que je sais que si j'en parle aux gens, les uns vont dire ceci, les autres vont dire cela. Okay. Je dis, mais c'est une manière que Dieu utilise pour aussi te guider. Donc, tu peux pas prendre ta décision. Il a pris une décision vraiment en cachette et en disant que voilà, c'est entre toi, ça se passe entre toi et Dieu, tout simplement, et les autres sont exclus. Non, Dieu utilise aussi, parfois, les frères et sœurs pour nous aider dans les décisions que nous avons à prendre. Donc, nous n'avons pas besoin de cacher aux frères et aux sœurs les décisions, les choix. On peut pas parler de tout, bien sûr, mais parfois, on découvre des choses une fois qu'elles sont accomplies. Et après, c'était pas forcément une bonne décision. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu les prendre sans consulter Dieu. Oui, c'est-à-dire on dit qu'on a consulté Dieu, mais il y a des moments où la manière de consulter Dieu, c'est de dire, voilà, je mets ça aussi devant les frères et sœurs afin qu'ils me donnent conseil, qu'ils me disent ce qu'ils pensent, ça ne veut pas dire que je vais suivre exactement, mais qu'ils me donnent conseil, que j'écoute et que probablement le Seigneur me parle aussi à travers cette manière-là. Donc attention, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Hein. Il est important pour nous de consulter Dieu de quelque manière que ce soit, bien sûr à travers sa parole, mais à travers tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions connaître sa volonté. La Bible dit que faute de conseiller, les projets échouent. D'accord. Et les conseillers, c'est ceux que Dieu place auprès de nous, qui sont nos frères et sœurs, qui sont la même famille, qui peuvent nous aider, bien sûr, à prendre les bonnes et les sages décisions. Donc, je résume et je termine. Dépendre de Dieu, c'est, premièrement, consulter Dieu en premier recours. C'est, deuxièmement, consulter Dieu, quelle que soit l'expérience que l'on a de la circonstance. Troisièmement, c'est obéir à Dieu, comme on le voit avec David. Et puis, quatrièmement, c'est reconnaître que c'est Dieu qui doit marcher devant nous. C'est lui qui doit diriger. C'est lui qui œuvre dans toutes les circonstances. Que le Seigneur nous aide à garder sa parole dans nos cœurs et dans cet été qui vient, voilà, dans les décisions qui sont devant nous, à ne pas oublier de le questionner et de chercher pleinement et véritablement sa volonté et de nous y soumettre une fois que nous la connaissons. Prions. Merci.